rencontre de ce soir a pour occasion, vous le savez, la sortie récente du dernier livre de Philippe Solers, qui porte le beau titre, à été guérien peut-être, l'éclaircie. Elle prend place, cette soirée, également dans le cadre des activités nombreuses du pôle de recherche du Collège du Bernardin, et plus précisément dans le département dévolu aux questions artistiques, à la création artistique, justement nommé la parole de l'art. Ce département que je dirige, ainsi que Bernard Barcadet, historien d'art bien connu, et qui est, je crois, dans cette salle, est ouvert donc à la parole des artistes. C'est tout à fait un propos juste s'agissant de ce soir, puisque non seulement nous entendrons Philippe Solers lui-même, mais Philippe Solers parlant d'art comme il le fait si bien et si souvent. Nous allons, juste après la brève introduction que je voudrais apporter pour rentrer plus dans le vif du sujet, regarder un film d'une quarantaine de minutes réalisé par Georgi Galabov, puis Philippe Solers prendra la parole, à moins qu'il prenne la parole un peu aussi avant le film, on verra bien, et puis éventuellement nous aurons ensuite quelques échanges si vous le souhaitez, s'il le souhaite. Je n'ai pas voulu improviser mon propos. Et ce sont simplement quelques brèves réflexions, donc à caractère introductif. Une éclaircie, c'est ce qui ouvre le ciel quand il est plombé. Elle est un avant-goût du beau temps, d'autant plus saisissant qu'il fait soudainement irruption dans la noirceur. Les cieux les plus noirs s'ouvrent au passage de l'écrivain, d'où l'éclaircie. Je plagie ici une phrase de Picasso, écrite au dos d'une photographie et reproduite dans le livre, page 116. Je cite « Les murs les plus forts s'ouvrent à mon passage, regarde. » La raison de ce livre n'est évidemment pas d'écrire sur Manet et Picasso, mais d'écrire avec Manet et Picasso, ce que peu de critiques et d'historiens au fond comprennent. Qu'un livre comme celui-ci puisse être mal reçu par eux, il ne faudra pas s'en étonner. Il ne sera d'ailleurs pas mieux reçu par ceux qui penseront qu'il n'y a là que l'apparence d'un roman, puisque le texte, sur fond d'intrigue, certes, semble plutôt un enchaînement de notations de caractère très subjectif, où l'auteur, une nouvelle fois, se raconte lui-même. C'est ignorer deux choses. Que le roman a toujours été cela, et qu'il est moins pour Philippe Solers un genre littéraire défini qu'une liberté parlant d'elle-même, s'exposant comme telle. Pourquoi l'appeler roman, alors? Parce que la fiction permet tout, peut-être. Je dirais plutôt parce qu'elle est l'univers naturel, nécessaire, de celui qui habite pour de bon la réalité et qui entreprend tout simplement de noter avec exactitude ce qu'il voit. Ce qui est intéressant avec l'art, c'est quand l'univers absolument singulier de l'artiste, tout en restant le sien, se met à devenir aussi celui des autres, se met à révéler en somme d'autres singularités, proches, complices, rivales souvent. Ce qu'ont fait en leur temps et n'ont cessé de faire depuis ces deux géants que sont Manet et Picasso. Ce que fait avec eux Philippe Solers. Ce qu'il fait pour nous, en produisant régulièrement ses relevés de voyage. Hier du côté de Stendhal, avant-hier du côté de Dante et d'une infinité d'autres qui ne cessent d'ailleurs de revenir avec tous à chaque nouveau livre. le roman et la peinture ne nous intéressent pas parce qu'ils nous feraient rêver, mais parce qu'ils peuvent dire la vérité, et ils ne nous retiennent que quand ils y réussissent. Aussi, la vérité en art n'est-elle ni moderne ni ancienne. L'extrême modernité n'est jamais d'ailleurs qu'un extrême classicisme. Ni rien qui relève des données circonstancielles ou historiques, si importante soit-elle pourtant. La vérité en art est ce qui s'impose de soi et traverse ainsi le temps de manière irréfutable, éclatante. Je lis l'admirable phrase du cardinal de Retz que Philippe Solers a mise en exergue de l'éclaircie et qui pourrait être méditée par les théologiens que nous sommes. La vérité jette, lorsqu'elle a un certain cara, lorsqu'elle est à un certain cara, une manière d'éclat auquel on ne peut résister. Ceux qui lui résisteront seront donc de mauvaise foi. Manet n'est pas l'inventeur de l'art moderne, ni Picasso l'agité surdoué et encombrant que l'on voit en eux quand on leur résiste précisément. Ils sont l'un et l'autre deux héros de la vérité. Je cite page 147, Manet n'a pas menti, Picasso non plus. Ils sont deux acteurs éclatants du roman fondamental, du plus vrai des romans, celui des existences jetées dans le temps. Autre chose, que Philippe Solers dise cela en écrivain, en romancier, en penseur de l'art tout autant, me paraît la manière musicalement juste de poser à son tour le geste de l'indifférence que Georges Bataille prêtait à Manet. L'indifférence qu'il faut rapprocher de l'évidence de la vérité est en effet le signe de l'accomplissement des passions, non leur suppression. Indifférence divine. L'indifférence renvoie à l'intensité sexuelle comme le profondément obscur est condition de l'éclaircie. Voyez cette peinture de 1717 d'Antoine Watteau, nommée justement l'indifférent, et qui représente un comédien, un arlequin peut-être, en vêtements blancs, se détachant sur un paysage sombre. Watteau, Velázquez, Manet, Picasso, croisement de transmission espagnole et française, d'une même histoire, où se rejoue la même scène mystique, sexuelle, où se recherche toujours, et se trouve, la même éclaircie. Je relève, page 23, cette phrase écrite comme en passant, et qui m'enchante. L'infirmière, d'origine espagnole, avait une jolie voix calme. Indifférent, en somme, est le regard qui voit vraiment. C'est sa manière à lui, aristocratique, parfaitement soucieuse de la vérité, généreuse ô combien, d'honorer ses grandes complicités artistiques et par là de nous réjouir, une fois de plus.